Bonjour et bienvenue sur YogiBiz Podcast, le yoga teacher training du marketing pour les yogipreneurs qui veulent impacter des millions de vies positivement grâce au yoga. Je suis Cécile, coach et accompagnatrice digitale spécialisée pour les professeurs de yoga. Et chaque semaine, je vous délivre des inspirations, stratégies et conseils marketing éprouvés et applicables immédiatement pour vous construire un business de yoga authentique et rentable grâce aux opportunités du web. C'est parti! Hello à toi et bienvenue sur ce nouvel épisode de YogiBiz Podcast. Tu sais probablement ce qui t'attend puisque c'est le troisième épisode et dernier épisode de cette série dédiée à organiser, préparer et réussir ta rentrée de professeur de yoga. Alors aujourd'hui avec Perrine, on va être du coup sur la vision d'une gérante de studio puisque Perrine elle a son propre studio de yoga à Lyon, Jinko Yoga Studio. Mais tu verras aussi qu'elle va nous parler des professeurs qui travaillent pour elle. De comment justement tout ça fonctionne, comment elle organise avec ses professeurs la rentrée, comment elle recrute de nouveaux professeurs, comment elle gère les plannings. Tout ça, ça peut complètement aussi t'être utile à toi si tu veux enseigner des créneaux en studio. Et puis au-delà de ça, Perrine, vraiment, elle a cette casquette d'entrepreneur, cette vision pour son studio, de super bonnes idées aussi évidemment. D'offres. Donc vraiment, je t'invite à écouter cet épisode qui est plein de pépites, plein de bons conseils, de bon sens aussi. Perrine, elle est issue d'une carrière corporate, elle est maman, elle sait voilà aussi à quel point son temps, son énergie, tout ça c'est précieux. Donc vraiment, c'est encore une autre professeure de yoga, une autre histoire, une autre expérience, une autre vision, de nouveaux conseils. Donc vraiment, je t'invite à écouter cet épisode, même si tu n'as pas ou pas encore ton propre studio de yoga. Donc voilà, quel que soit ton profil, encore une fois, quel que soit le type de yogipreneur que tu es, il y a des réponses pour toi dans cet épisode, j'en suis sûre. Donc tu le sais maintenant, hein, on aborde un petit peu plusieurs aspects de la rentrée dans cette série de trois épisodes. Donc voilà, un petit peu quand est-ce qu'il faut s'y prendre, c'est quoi le rétro-planning idéal, à quoi il faut penser, sur quoi il faut être prête, quels sont les éléments de la checklist de rentrée finalement, où est-ce qu'on va devoir concentrer notre énergie, est-ce qu'il y a des erreurs, des pièges qu'on peut éviter évidemment. Donc vraiment, comment anticiper, planifier, organiser, se préparer à tout ça de manière idéale. Et aussi, effectivement, quand ça va pas comme on veut, quand on n'atteint pas forcément nos objectifs, comment on peut rebondir. On parle aussi bien de planning, de gestion de son temps, de gestion de son énergie. On parle de communication, hein, comment communiquer sur ces nouvelles offres, attirer des élèves finalement, quelles sont les différentes stratégies qu'on peut mettre en place pour lancer une nouvelle offre, pour peut-être attirer de nouvelles personnes dans son studio ou dans ses cours, dans ses offres à la rentrée. Et puis aussi, qu'est-ce qui va créer le déclic que ces nouvelles personnes, ces nouveaux élèves vont s'inscrire. Donc vraiment, tout ça, c'est hyper important sur quoi se concentrer à cette période. Et donc, comme je te le disais, il y aura aussi des conseils pour toi si tu veux enseigner en studio avec la vision justement hein, d'une gérante de studio. Tu verras que c'est probablement pas trop tard pour toi pour démarcher les studios. Je t'invite à écouter cet épisode aussi si tu es dans ce cas de figure. En tout cas, on essaye de couvrir vraiment toutes les questions que tu peux te poser, quel que soit ton profil de prof de yoga, de t'apporter tout ce que... de partager vraiment, c'est vraiment aussi bien Coralie, Eva que Perrine, elles ont eu à cœur de partager vraiment gratuitement avec toi leur expérience, leurs conseils, vraiment leurs coulisses. Donc moi je trouve que c'est hyper riche, c'est hyper précieux, c'est hyper généreux. Donc vraiment profite. N'oublie pas aussi que moi je t'offre en parallèle de ces épisodes de podcast la méthode 50K pour t'aider à savoir quelles offres créer pour atteindre tes 50K. 50K de chiffre d'affaires avec moins de 50 clients. Donc c'est un mini cours, une formation en 3 heures, 3 heures et demie, c'est bouclé. Tu auras aussi des exercices pour passer à l'action et vraiment tu vas découvrir le raccourci pour t'aider à développer ton business de yoga tout en ayant un quotidien qui te permettra d'avoir plus de temps et de liberté selon tes objectifs de vie, selon tes non négociables à toi. Parce que ça, c'est extrêmement important pour moi. Hein. Une de mes valeurs, c'est l'harmonie dans sa vie, dans son quotidien et aussi en tant que femme, de pouvoir tout concilier sans compromis. Donc vraiment, c'est comment je crée des offres et un écosystème d'offres, quelles questions je me pose et comment je mets ça en place pour que ce soit viable, pour que je puisse développer un business qui va être rentable. Parce que si on veut la liberté, bah à un moment donné, on a besoin de gagner notre vie. Hein. La liberté, elle a un prix. Et donc voilà, moi ce qui m'intéresse c'est de te donner cette méthode, cette formule, que tu aies une vision claire en fait à l'issue de cette formation et des vrais déclics pour passer à l'action, mettre le pied à l'étrier et construire cet écosystème d'offres qui va te permettre d'avoir cette vie-là et de vivre de ton activité de prof de yoga. Donc c'est vraiment ma promesse avec la méthode 50K. Tu peux nous rejoindre en cliquant sur le lien dans les notes de cet épisode. Tu recevras directement ton accès à la formation. Et donc je répète, mais c'est offert, c'est gratuit pour démarrer ta rentrée. C'est mon petit cadeau de rentrée. Je laisse sans plus attendre et toujours sans transition place à ma conversation avec Perrine. Alors, j'ai le plaisir de t'accueillir, Perrine, aujourd'hui pour aborder la rentrée du point de vue, du coup, côté studio, puisque toi, Perrine, tu as ton propre studio à Lyon, Ginkgo Yoga Studio, dans lequel bah, tu enseignes, mais dans lequel tu accueilles également, enfin, tu as des profs hein, qui travaillent pour toi, une équipe de plusieurs profs qui, eux aussi, ont leur propre créneau. Et puis, on en parlera sûrement, mais tu assures aussi des 200 heures, des 300 heures, des modules de formation aussi, 40 heures, 100 heures, etc. Donc, avant de revenir sur ces formations, si on se concentre un petit peu sur la partie studio, sachant que à l'heure où on enregistre cet épisode, le mois de septembre est déjà un petit peu entamé pour cette année. Mais justement, ma première question pour toi, ça serait quand est-ce que ça se prépare la rentrée d'un studio, la rentrée de septembre en tout cas, hein, quand est-ce que ça se prépare et qu'est-ce qui se prépare? Quand est-ce qu'on prépare ça et qu'est-ce qu'on prépare?
Ok, bah bonjour Cécile, merci de m'accueillir. Effectivement, la rentrée, finalement, c'est un gros sujet, mais je sais qu'on va parler de toutes les rentrées d'une année. Donc effectivement, je dirais que la rentrée de septembre est importante, mais c'est pas la seule qui est importante. Et pour répondre précisément à ta question, j'ai commencé à planifier la rentrée de septembre en avril. Mmh. Oui. Tout à fait. C'est en avril que j'ai commencé à refaire mes fameux KPI. Donc là, j'avais suffisamment de données maintenant sur 2 rentrées scolaires pour pouvoir vraiment évaluer finalement la performance d'un cours. Je ne sais pas si on peut dire ça, en tout cas la fréquentation du cours sur la durée. J'avais suffisamment en fait de données maintenant pour savoir ce qu'on gardait et ce à quoi il fallait dire au revoir, ce qui est assez difficile aussi. Et puis faire place aussi un petit peu de nouveautés, essayer. Et il faut savoir aussi qu'il y a des profs qui vont laisser tomber des créneaux, qui vont en prendre d'autres, qui en ont besoin de plus. Donc en fait, c'est vraiment moi en avril que j'ai commencé à faire un pré-planning de rentrée. En tout cas, si c'est pour le planning. En avril pour pouvoir sécuriser au plus vite pour effectivement après planifier sur le back office et puis commencer petit à petit à communiquer aussi autour de ça. Donc ça, c'est un côté planning. Côté offre de rentrée, même chose. J'ai la chance d'être ouverte depuis 2 ans et demi, donc j'ai aussi des KPI là-dessus. Je sais comment ça savoir ce qui fonctionne, ce qui fonctionne pas en offre de rentrée. Et c'est quelque chose qu'on doit quand même mettre en avant assez rapidement parce que faut faire des visuels, des prints, du back-office, des calculs de rentabilité. Donc, dès qu'on a une espèce d'idée comme ça qui vient sur une offre de rentrée, il y a quand même plusieurs heures de travail là-dessus. Et puis, comme août, souvent, c'est un mois un peu plus calme, c'est pas forcément là qu'on travaille non plus. Donc, moi, j'ai eu envie de partir en juillet, que tout soit set-up. Même la newsletter de rentrée était faite en juillet. Ouais. Je dirais que moi, j'ai préparé ça d'avril à juillet, tout était prêt.
Oui, donc en fait, tu vas d'abord, donc tu parlais de KPIs, hein, donc pour ceux que ça passe, que c'est effectivement, c'est les indicateurs de suivi, tous tes chiffres, ta base de data pour effectivement un petit peu comme quand on est indépendant, bah on peut suivre effectivement combien de nouveaux clients on a, combien de clients prennent combien d'offres, combien on a de clients sur Instagram, enfin d'abonnés à la newsletter, etc. Donc tout ça, c'est ce qu'on appelle des KPIs. Donc toi, tu viens essentiellement du coup regarder la fréquentation des courses, c'est-à-dire voir les créneaux et donc il y a et le côté horaire jour et le côté j'imagine type de cours aussi qui peut influer ou voire même quel prof sur quel cours Et puis il y a la partie en parallèle. Garder, amplifier ou peut-être même des fois se séparer à ta demande ou à leur demande de certains créneaux, de certains profs. Donc, il y a aussi le côté faire le point sur le côté humain qui reste, qui prend plus de cours, qui est-ce que peut-être on prend aussi de nouveau, qui de qui on se sépare ou qui choisit de...
Qu'est-ce que moi j'ai envie de faire aussi
Qu'est-ce que toi t'as envie de faire aussi en tant que gérante, effectivement. Donc après, c'est faire matcher ça. Et quand tu parles de nouveautés et du coup de calcul de renta, est-ce que t'as un exemple pour... c'est quoi? C'est une nouvelle formule, par exemple? Ou c'est un nouveau cours?
Alors,
un nouveau créneau?
Un nouvel horaire avec un nouveau prof sur une nouvelle discipline. Je sais que tu vas me poser la question sur quelques conseils, mais je peux déjà rentrer assez vite dans le vif du sujet.
Pour dire, vas-y.
Pas la peine de réinventer la roue à chaque fois. Je pense qu'il faut absolument capitaliser sur ce qui fonctionne et apporter évidemment ce petit 10-15% de nouveauté, parce que c'est vrai que même, moi je sais que les élèves adorent quand il y a un nouveau cours, c'est pas pour autant qu'ils vont y aller. Donc en fait, je dirais qu'il faut pas réinventer la roue toutes les rentrées, tous les mois de janvier, voilà. C'est pas forcément...
Oui, ça c'est un piège dans lequel on peut tomber, de penser que en fait, ça va pas suffire si on propose la même chose. En fait,
Et en fait, moi c'était plutôt l'inverse, c'est-à-dire qu'au mois de juillet, c'est pas que j'ai senti un petit peu d'anxiété, non, mais j'ai quand même beaucoup d'élèves qui m'ont dit, Périne, en septembre, ça reste pareil, hein.
Ouais. Oui, de retrouver finalement, il y a une demande à retrouver ses habitudes, ses créneaux. Voilà. Voilà, si je viens le mardi soir à 19h, bah, j'ai envie que ça reste le mardi soir à 19h, quoi. Pas que tout soit chamboulé, en fait.
Exactement. Ouais. Et après, bah, c'est toujours chouette. Là, j'accueille deux nouvelles professeurs et je sais que ça fait plaisir aussi qu'il y ait deux nouvelles professeurs, deux nouveaux créneaux. Voilà, mais j'ai essayé de faire en sorte... Moi, je fonctionne sur un 23-25 cours semaine. Tu vois, 25, je sais que je suis déjà trop, j'ai déjà trop de cours à 25 cours. L'idée, ce serait plutôt de rester sur du 23-24. Mais comme là, on est sur la troisième année et qu'on commence à avoir de plus en plus de monde, je me suis laissée tenter le 25 cours en sachant que c'était trop. On verra. Peut-être que ce sera une bonne surprise. Mais j'ai pas non plus envie de réinventer complètement la roue. Le planning s'est fait relativement rapidement. Ce qui a été le plus dur pour moi, étonnamment, c'est de gérer mes contraintes personnelles au milieu de tout le monde. C'est-à-dire que je pourrais, c'est mon tempérament et c'est souvent une bêtise, mais enfin c'est une bêtise, je sais pas. C'est que moi j'ai eu tendance à combler les trous des autres pour que tout le monde se sente bien et que les gens arrivent à long terme. Et
ça, je pense que ça va résonner pour d'autres.
Voilà. Et je me suis retrouvée finalement moi dans des contraintes qui me plaisaient pas trop. Voilà, j'ai deux enfants en très bas âge, on est dans une crèche parentale, etc. Donc, ma vie perso me prend beaucoup de temps. Et finalement, cette année, ce que j'ai quand même essayé de faire, c'est pas de me mettre en premier, mais au moins me mettre à égalité.
Oui, oui, c'est-à-dire pas toi te retrouver à faire la permanence des cours que personne veut ou...
Finalement, voilà, c'est ça. Et puis, moi, j'ai aussi mes petits best-sellers et il était hors de question que j'y touche non plus.
Voilà. Ouais.
Donc c'est ce jeu d'équilibriste aussi pour ma part. Mince, j'étais persuadée de l'avoir
éteint. C'est pas grave.
Excuse.
C'est des futurs, des WhatsApp, des demandes de cours et d'inscriptions.
Exactement. Donc voilà, c'est tout ce jeu d'équilibriste en ce qui fonctionne bien, apporter un petit poil de nouveauté et faire en sorte que ta vie perso soit quand même en harmonie avec tout ça, parce que bah, être à son compte, ça prend beaucoup de temps, et en plus bah, être responsable d'un établissement, malgré tout ça reste un commerce de proximité, donc ça prend encore beaucoup de temps off qu'on ne voit pas, hein. Donc il faut aussi se préserver et se préserver en fait par rapport à ça.
Est-ce que tu je sais plus exactement le détail de tes formules, si c'est des abonnements qu'on peut réserver en ligne, des cartes, etc. Mais est-ce qu'il y a une partie pour les clients qui sont déjà clients, du coup, les élèves qui sont déjà clients, est-ce que tu renouvelles un petit peu comme leurs inscriptions avant le départ en vacances, ou est-ce que tout se joue à la rentrée? Est-ce qu'il y a une continuité d'assurés? Comment ça marche?
Moi, c'est automatisé dans le sens où, en fait, je suis en tacite co-reconduction, mais je suis sans engagement. Donc, en fait, pour les personnes qui payent au mois le mois leurs abonnements, ça s'arrête jamais.
T'as des abonnements quand même, voilà.
Voilà. Mmh. J'ai des abonnements et j'ai des cartes. Et en fait, on offre un petit quelque chose à la personne qui va se réabonner. Donc, 15 jours avant la fin de sa carte, tout est automatisé. Il reçoit un petit mail. Si tu souhaites, voilà, on t'offre un mois. Enfin, je ne sais plus ce qu'on a mis en place exactement, mais ça doit être ça. Et puis, les personnes qui ont payé à l'année, c'est pareil, 15 jours avant, une semaine avant, elles ont un petit mail automatisé en disant, bah voilà, si tu veux renouveler pour l'année, on t'offre un mois, ce qui est plutôt commerçant.
Aussi. Donc ça, justement, toute ta partie pour toutes les personnes qui veulent réserver des cours chez Ginkgo, tout est automatisé, tout se fait en ligne.
Alors, j'ai un accueil ici.
Ouais. Oui, parce que du coup, c'est ça aussi ma question. Est-ce que il y a quand même du temps à prévoir pour sur cette période, sur septembre, plus de temps à dédier quand même à l'accueil, au renseignement, bien que effectivement, je sais que tu as un maximum de choses qui soient déjà automatisées.
Dès le mois de juin.
Ouais. Ouais,
yes. On a des personnes qui passent la porte et qui viennent nous demander si le planning de septembre est déjà sorti, comment ça se passe si on veut essayer. Donc effectivement, moi je travaille à l'accueil avec Alexia et les gens rentrent en fait quand ils rentrent, on arrête ce qu'on en peut faire et on conseille les personnes qui entrent. Mais là en ce moment, oui, c'est tous les jours, toute la journée, personne qui rentre. C'est un peu l'avantage en fait, c'est prenant. Mais l'avantage, en fait, je sais qu'on est quasiment les seuls en France à avoir un accueil et pas juste un studio où tu rentres et les profs ont la clé et c'est fermé la plupart du temps. Nous, c'est ouvert parce qu'il y a la boutique. Et du coup, il y a encore des gens qui ont besoin de ce one-to-one, d'être assurés, de nous expliquer, bah voilà, moi, je me suis opérée de ci, de ça, j'habite là, j'ai ça comme horaire, je recommence, qu'est-ce que vous me conseillez? Et encore vachement, en tout cas, chez nous, on attire ces gens qui ont aussi besoin un peu de conseils.
Oui, oui. Est-ce que c'est fait pour moi? Quel cours?
Exactement. Il y a encore beaucoup d'interrogations autour du
combien de cours par semaine.
Tout à fait. Et puis, du coup, si je prends cet abonnement-là, comment je peux faire? Est-ce que je peux annuler? Est-ce que voilà?
Ouais. Donc, c'est aussi, je pense, des. Donc, moi, j'aime bien automatiser un maximum de choses. Je pense que c'est des choses qu'on peut peut-être prévoir justement dans un lead magnet, une brochure sur le site, une FAQ, etc. L'un n'empêche pas l'autre, hein. Mais en tout cas, si toutefois on peut pas non plus avoir un accueil dédié, ça fait partie, je pense, aussi de toutes ces questions. Il faut bien les mettre en avant quelque part et en parler régulièrement pendant tous les mois de.
Nous, sur le site, on a une page, donc au niveau du planning, bah, que oui, il faut réserver 5 minutes, il faut arriver 5 minutes à l'avance, qu'il n'y a pas de matériel, qu'il faut nous prévenir s'il y a une blessure, qu'il y a des casiers fermés à clé, tout ça. On a un petit endroit où c'est dédié. Mais quoi qu'il en soit, j'ai toujours des personnes qui me demandent comment on réserve, alors qu'il y a un gros bouton réserve.
Oui, mais bien sûr, mais ça, voilà. Déjà, puis les gens sont feignants aussi, donc ils vont pas chercher l'information, ils préfèrent la demander, bien sûr.
Quoi qu'il en soit, voilà, je pense qu'il faut automatiser au maximum pour faire ce qu'on a à faire par ailleurs. Mais il faut laisser un peu d'espace aux personnes qui ont besoin d'être assurées, en fait.
Et du coup, dans cette automatisation, toi, pour tes inscriptions, ça veut dire que ta base email, elle se remplit automatiquement, en fait. Là-dessus, toi, t'es rodé, quoi. Vraiment, en fait, n'importe qui s'inscrit, c'est bon, quoi. Tu peux les contacter à n'importe quel moment via mail. Ça, c'est OK. Et d'expérience, là, depuis plusieurs années, c'est quoi le type de formule qui fonctionne le mieux pour toi, en tout cas à Lyon et en studio? C'est les abonnements à l'année? C'est les formules au mois? C'est les... Je sais pas si tu as encore des cartes.
Les deux fonctionnent, en fait. C'est pour ça, parce que, en fait, après le Covid, c'est difficile d'enfermer les gens dans des abonnements. Même si au moment où ils font confiance, c'est parti, l'abonnement. Moi, je suis sans engagement et en fait, j'ai réalisé que d'être sans engagement, les gens restent.
Oui,
c'est un peu comme quand on est marié et quand on n'est pas marié. C'est un peu la même chose.
Oui, c'est ça, exactement.
Voilà. Quand on n'est pas marié, on sait qu'on ne va pas divorcer. Donc finalement,
on se sent libre.
Voilà, j'ai ces fameux abonnements sans engagement. Et finalement, tu vois, il y a plein de gens qui m'ont dit « mets des frais d'inscription, mais si, mets un 3 mois de machin. » C'est comme dans les salles de sport.
Moi, je trouve que ça rajoute de la contrainte aussi.
À titre personnel, quand tu me dis « il y a 79 balles de frais d'inscription, nanana, mais quel enfer, en fait, j'ai juste envie de faire demi-tour. » Donc moi, je me dis en fait, je vais simplifier le truc au maximum. Oui, j'ai pas de frais d'inscription. Oui, j'ai qu'un seul mois de préavis. Mais en fait, c'est fluide pour tout le monde. Et quand les gens, on leur dit, t'as un mois de préavis, t'as pas d'engagement, t'as pas de frais d'inscription. Oh, bah, cool!
En fait, je pense que c'est fluide et simple, quoi. Donc, il y a le fait de pas trop perturber les habitudes et de pas vouloir un maximum de nouveautés à tout prix. Et il y a le fait de tout ce qui peut être simplifié au maximum et ne pas avoir 36 000 formules, 36 000 tarifs différents dans le sens, effectivement, des frais annexes. Enfin, des choses à penser, en fait. Les gens ont suffisamment de charge mentale. Donc, même dans un studio, plus on peut simplifier. Alors, moi, je le recommande déjà au niveau des studios en ligne. Si on peut avoir qu'une formule ou alors, aller maximum 3, on va dire. Mais effectivement, simplifier au max. Et donc, c'est valable aussi en studio. J'ai une question aussi sur la communication. Comment ça se passe, toi, en termes de communication? C'est le studio qui communique et du coup, tu prends le relais, quelque part pour les profs ou tu as des attentes par rapport aux professeurs? Après, je sais pas aussi, effectivement, s'ils ont un forfait ou ils sont indexés, entre guillemets, sur la fréquentation de leurs cours ou autre. Mais c'est quoi tes attentes par rapport à ça?
Alors moi, je pense que légalement et éthiquement, je n'ai aucune attente de communication à imposer à mes professeurs.
D'accord.
Qui sont rémunérés pour une prestation de cours, pas pour une prestation de communication. Pour autant, j'ai la chance d'avoir des profs qui le font. Donc ça, c'est assez chic de leur part. Et du coup, c'est moi par contre qui paye la séance photo de mes profs. Pour qu'après, s'ils ont envie de communiquer sur le studio et sur leurs cours, ils aient des photos de qualité, ils aient du contenu.
Ah, ça, c'est chouette, ouais.
Je trouve que c'est un peu notre responsabilité aussi en tant que gérant de studio. Je trouve que c'est pas... Si la prof me louait la salle, oui, elle se débrouille.
Oui, c'est différent.
En revanche, là, moi, je la rémunère pour une prestation qui est celle de préparer et d'enseigner un cours de yoga et pas de faire la communication de Jinko Yoga Studio.
Donc finalement, la fréquentation des cours, même si évidemment ça peut être lié à la prof et si vraiment il y a un problème, on peut l'identifier, mais quelque part c'est ta responsabilité en partie quoi, en termes de com et de faire venir les gens et les faire découvrir ce créneau, ce cours, etc.
Je pense, après, je regarde souvent ce que font les studios parisiens qui ont des rockstars, tu vois, ce qui n'est pas trop le cas à Lyon, même si mes profs sont des rockstars, clairement. je dirais que, oui, t'as des studios, par exemple, comme Kind, Ashtanga Yoga Paris, tout ça, ils n'ont même pas besoin de communiquer, ils ont tellement des monstres chez eux que... Là, pour moi, il n'y a plus grand-chose à faire en termes de communication. Nous, on n'est pas encore dans ce modèle-là. Donc, la communication repose essentiellement sur moi. Ça prend énormément de temps. C'est un budget très important. Et c'est quelque chose qu'on planifie aussi énormément.
Ouais, ce que j'allais dire, donc en termes de com pour un studio, effectivement. Bon, après, je sais que toi, t'es au rendez-vous là-dessus, mais encore une fois, je vois trop aussi de studios, peut-être plus petits, peut-être qu'ont moins une équipe de professeurs ou autre. Mais on ne sait pas quand est-ce que c'est ouvert, on ne sait pas qui contacter où. C'est-à-dire que éventuellement, on a un numéro, on a une adresse mail, mais on ne sait pas où est-ce qu'on doit s'adresser, pourquoi. On n'a pas de formulaire en ligne ou de choses où c'est clair, où on sait où s'inscrire. On n'a pas éventuellement le prénom, le nom de la personne à qui s'adresser, on n'a pas les horaires d'ouverture, on n'a pas la localisation.
Le conseil pour ça, c'est demande à ta mère de réserver un cours chez toi.
J'adore l'astuce.
Parce qu'en plus, ta mère, elle va être pleine de... Elle va bien appuyer là où c'est pas bien.
Ouais, ça dépend peut-être des mamans, mais...
Et en fait, demande à ton mec ou n'importe qui de faire en fait le parcours client.
Ouais, exactement, c'est ça, c'est le parcours client.
Non, mais même moi, parfois, je suis là, mais qu'est-ce que c'est que ce truc sur mon propre site, en me disant, mais attends, c'est pas clair. Mais en fait, quand on a la tête dans le guidon, c'est quand même.
Oui, oui, tout à fait.
Là-dessus, je pense que c'est pas parce qu'on fait tout seul qu'on est plus méritant que quelqu'un d'autre. Et je pense qu'il y a vraiment des moments, surtout sur des rentrées, où il faut demander de l'aide. Que ce soit par un prestat, mais ça, tu le dis tout le temps, toi. Hein, donc, je fais qu'enfoncer des portes sur ce que tu dis déjà. Mais ça peut vraiment être l'aide d'amis. Moi, je sais que ma meilleure amie, à l'époque, elle relisait tous mes articles de blog. Elle a relu tout mon manuel de Waititi. Hein.
Ouais.
Elle est incroyable, parce qu'il y a quand même 300...
Moi, j'ai même pas lu le mien en entier, alors... Tu vois,
donc je pense que s'il y a un moment donné sur ce genre de choses, parce que clairement moi ça m'insupporte, mais que ce soit un resto ou n'importe quoi, quand on sait pas où réserver, si c'est où mettre, c'est en fait là tous les efforts de com que t'as fait, terminé,
ça sert à rien. Ouais, exactement.
Donc il faut que tout soit facile et fluide, et c'est pas rien.
Ouais, parce que si t'as un super cours, un super créneau, une super formule ou un super prof, mais que c'est le bordel pour réserver, qu'on ne trouve pas, qu'on ne sait pas comment, voilà, ça fonctionnera pas non plus, quoi. Ou on aura
et souvent,
pas envie de revenir.
On fait des économies de bout de chandelle à prendre des systèmes de réservation, des machins, des trucs, parce que c'est moins cher et tout, sauf qu'en fait, s'il faut 3 heures pour t'inscrire au cours, bah, c'est terminé.
Et alors, je sais que tu as une équipe d'enseignantes qui est assez fidèle aujourd'hui, mais si du coup, tu avais un conseil à donner, point de vue gérante de studio, pour les profs de yoga qui voudraient, sur cette rentrée, avoir de nouveaux créneaux. Alors pareil, hein, j'imagine que ça se joue pas... enfin, justement, j'imagine rien, parce que j'en parlais avec Eva aussi dans l'épisode, et on disait que c'était jamais trop tard pour venir se présenter, se proposer en remplacement, etc. Et à juste titre, je pense. Mais voilà, idéalement, peut-être, quand est-ce que t'aimes découvrir de nouveaux profs? Est-ce qu'il faut qu'ils viennent se présenter toute l'année? Est-ce qu'il y a un moment plus judicieux?
Alors nous, il y a un truc qui fonctionne très bien. Moi, j'ai un accueil, et je pense que 95% des profs qui sont venus me dire bonjour ont été embauchés, en fait.
Déjà, ça pourrait juste commencer par ça.
Voilà.
Mais de se déplacer, fait, d'aller dire bonjour.
Je ne lis pas les CV de yoga parce qu'en fait, je m'en fous. Enfin, je sais pas comment dire. C'est pas parce que tu as été formé par tel organisme que tu es un bon enseignant. C'est pas parce que tu fais du yoga depuis 6 mois que tu n'es pas un bon enseignant. Enfin, en fait, tout ça, moi, ça ne m'intéresse pas du tout. Ce qui m'intéresse vraiment, c'est que la personne vienne se présenter à moi, la façon dont elle va me parler, la façon dont elle va se présenter. Et en fait, en général, moi, ça commence par des remplacements, et quand ça fonctionne bien, on arrive à ouvrir un créneau n'importe quand dans l'année. Vraiment.
Faut tenter sa chance. Faut pousser les portes et tenter sa chance.
Il faut. Je pense, en plus, moi, quand je reçois des lettres de motivation génériques et tout, alors autant.
Ouais, non, mais
oui. J'ai horreur.
Ça se fait encore?
Bah
ça
ne
viendrait pas à l'idée. Hein.
Moi, personnellement, chaque fois que j'écris une lettre de motivation, j'ai toujours passé 3 heures.
Ouais.
Chaque job, enfin, voilà.
Non, mais ça ne viendrait même plus à l'idée dans notre monde d'aujourd'hui, en fait, d'envoyer une lettre de motivation. Enfin, mais je suis peut-être complètement déconnectée avec mon business en ligne, mais...
Si, moi, ça ne me choque pas. En fonction du poste, ça ne me choque pas. Puis moi, en fait, avant, à l'époque, quand j'étais dans des industries normales, je les lisais, parce que déjà, bah, tu voyais le soin...
Ah oui, alors moi aussi, oui, évidemment, à l'époque. Mais là, aujourd'hui, voilà. Quel est ton moyen, finalement? Donc, il y a le contact que tu vas avoir avec le prof, mais après, c'est quoi? Il enchaîne direct sur un cours d'essai,
ce serait sur un remplacement d'un de mes cours, auquel je participerai, ou une de mes profs participera, pour voir, en fait, comment ça se passe en termes de pédagogie. Après, j'évite de le faire moi, parce que c'est assez stressant pour la personne.
Oui.
Pour le prof, donc soit c'est Céline ou Jérôme qui travaillent avec moi qui le font. Mais après, parfois, j'y vais parce qu'on n'a pas le choix. Et c'est là, moi, que j'arrive à savoir si ça va aller.
OK.
Voilà. Et puis après, il y a des personnes... Voilà, moi, tout ce qui est communauté Instagram, je m'en fiche. Tout ça, je m'en fiche. Pour moi, ce n'est pas la pédagogie de quelqu'un qui va faire que les élèves vont revenir tous les jours.
Ah oui, mais c'est intéressant parce qu'effectivement, à contrario, je sais qu'il y a d'autres studios qui vont faire attention justement à la notoriété, mais parce que aussi probablement ils attendent, contrairement à toi peut-être aujourd'hui, plus de communication de la part de l'enseignant, ou bien effectivement il y a aussi une partie qui peut être variable sur la rémunération en fonction de la fréquentation des cours, etc. Donc après tout se regarde, et c'est intéressant de savoir
clairement embaucher à l'Instagram, au physique.
Oui.
Carrière de danseuse avant, pour le coup, tu peux pas faire partie de l'équipe. Enfin, il y a des critères de recrutement. Attention, hein. Enfin,
oui. Alors après, il y a des choses qui sont peut-être moins légales que d'autres, moins accusées que d'autres. En revanche, je pense que c'est important aussi de le dire, puisque c'est important aussi pour les profs qui veulent enseigner de ça. Enfin, je pense que c'est d'avoir conscience de ce qui existe. Et de se dire, moi, ce que je veux, ou je veux travailler avec un studio qui fonctionne comme ça, qui fonctionne pas comme ça, qui, voilà, je pense que ça, c'est important aussi. Un peu dans l'idée, moi, à l'époque, quand je recrutais, j'estime que c'est pas moi qui suis en position de force en tant que recruteur, mais que le candidat, il doit aussi savoir, voilà, ce qu'il veut, pourquoi, comment. Et moi, j'inviterais toujours, voilà, les profs, c'est pas parce qu'ils cherchent des créneaux qu'ils doivent tout accepter.
Absolument.
Et effectivement, travailler avec des studios qui, peut-être, n'ont pas les valeurs, en tout cas, ces valeurs peut-être d'inclusivité, où la sélection, elle se fait pas forcément sur des critères. Ça arrangera sûrement certaines personnes, mais effectivement, c'est bien de savoir que tout ça existe aussi pour choisir ses studios, tout comme le studio choisit, je pense, aussi ses profs. Est-ce qu'il y a des pièges ou des choses... Enfin, ça va faire ta troisième rentrée, du coup, c'est ça?
Oui.
Troisième rentrée. Est-ce qu'il y a encore des choses où tu te dis, ah ben ça, j'y avais encore pas pensé? Enfin, est-ce que ça t'arrive de te faire surprendre?
En fait, oui. Sur certaines choses, en fait, parfois, j'ai l'impression que quelque chose fonctionne bien. Je sais pas pourquoi, au doigt mouillé. Et en fait, on fait les stats, on se dit, mais pas du tout. Pas du tout. Et en fait... il y a un moment donné.
Et on croit que les gens veulent ou attendent ça, et en fait.
Tout à fait. Et en fait, je pense qu'à un moment donné, quand on a la chance, là où on s'est fait avoir, notamment avec Alex, par exemple, sur des planifications, alors pas forcément de rentrée, mais de vacances.
Oui.
Tu sais, quand on va avoir des moments de creux, etc., à chaque fois, je me dis, maintenant, on a la chance d'avoir 2 ans derrière. Même si c'était Covid, même s'il n'y avait pas sanitaire, machin, etc., on commence à dégager des tendances. Et je pense que quand même, les années passées sont de très bons indicateurs de fréquentation, etc. Et on est toujours surpris, finalement, de voir ce qu'on pensait qui fonctionnait, ce qui fonctionne vraiment, ce qu'on pensait qui fonctionnait pas, qui en fait n'est pas si mal. Donc, je dirais que là où il ne faut pas se faire avoir, c'est sur ses impressions, en fait, de certaines choses, et que c'est bien d'aller regarder ces chiffres, et il n'y a absolument pas besoin d'être bon en maths. Mais je pense qu'il faut faire des chiffres pour pouvoir prendre parfois des décisions éclairées.
En fait. Non, mais exactement, c'est exactement moi le discours que j'ai aussi dans peu importe son business. C'est que si t'as une offre qui se vend pas, c'est pas forcément que ton offre elle est pas bonne. C'est peut-être que tu l'as pas lancée de la bonne manière, que t'as pas préparé tes clients à l'achat, que t'as pas, je sais pas, il y a peut-être le prix qui est déconnant, la promesse qui est mal expliquée. Enfin voilà. Mais c'est pas toujours une fuite en avant et effectivement il y a des choses qui peuvent, d'où la nécessité d'analyser. Pour du coup prendre des décisions derrière plutôt que de courir en avant et de changer les choses ou de faire autrement ou de rester sur des acquis qui en fait sont pas bons. Et c'est exactement aussi la même chose que de se dire je crois que mes clients veulent ça, donc je me lance dans cette offre-là ou je crée ça, alors que en fait non, qu'est-ce que veulent tes clients réellement maintenant, de la même manière que qu'est-ce qui fonctionne réellement. Et quand on dit les chiffres ne trompent pas, effectivement, non. Les chiffres et en tout cas les tendances, comme tu dis très justement aussi, c'est-à-dire voilà, l'évolution des choses, ça trompe pas. Donc c'est vraiment de pas que rester sur son impression ou son intuition, quoi.
Il y a, je pense que ce qui est très important aussi, c'est de pas vouloir en faire trop. Ça pour moi c'est très dur, mais tu vois, souvent on se compare énormément les uns les autres. Moi j'ai un studio vraiment à 500 mètres qui a 8 cours par jour, qui est 2 fois moins cher que moi. Et en fait ça m'a mis la rate au courbouillon pendant presque 2 ans en me disant, mais Perrine, comment tu vas faire pour arriver à la hauteur de ces gens-là? Bon, c'est des gens qui lèvent des millions d'euros de fonds d'investissement, etc. Ouais. Donc, en fait, c'est à bout d'un moment, arrête, pose-toi. C'est pas parce que tu as 16 cours par semaine que ton studio va fermer. Ouais. Les gens viennent pas chercher la même chose chez moi que là-bas. Et ça, c'est un conseil que je peux donner, c'est arrêter de vouloir en faire trop parce qu'on pense que c'est pas assez.
Ouais,
ouais. Et capitaliser sur ce qui fonctionne déjà bien avec, je dirais, ce 10-15% de nouveautés où on essaye, on tâtonne, parce qu'en vérité, on sait jamais trop ce qui va marcher. Enfin, moi, il y a eu des horaires où on s'est dit, mais attends, c'est pas possible, pourquoi ça marche pas? Et on a sorti des horaires complètement farfelus qui ont fonctionné.
Ouais,
c'est quand même aussi difficile. Parfois, on peut faire toutes les études de marché, tous les questionnaires qu'on veut. Le résultat sera pas au rendez-vous et sera là où on l'attendra pas en plus de ça. Je me souviens, la personne qui m'a formée, quand elle a su que j'allais ouvrir un studio, elle m'avait dit « There is what people want to want and there is what people do. »
Enfin, exactement. Voilà.
En fait, quand j'avais fait le sondage à l'époque, « Est-ce que vous voulez des cours à 7h30 le matin ?»
Oui, oui.
J'avais eu autant de
réponses. En fait, ils viendront jamais, quoi.
Voilà. J'ai eu autant de réponses à 7h30 qu'à 19h30. Ah.
C'est un peu le principe d'une bêta-test, en fait, ou d'une pré-vente. Hein. Paye avant de... Voilà, et là, tu vas voir vraiment si tes élèves ou tes clients, ils sont intéressés versus « Ah ouais, génial, ton offre !» Et quand tu la lances, il n'y a personne, quoi.
Et nous, ça fait que 6 mois qu'on commence à avoir des gens à 7h30.
Tu nous l'as fait en anglais, vas-y. Tu nous l'as fait en anglais.
« There is what people want to want. » Donc moi, j'adorerais me lever tous les matins à 7h pour aller au yoga. Et there is what people do, quoi. Enfin,
there is what people do.
En fait, voilà.
Et c'est simplement pas what they want to want.
Ouais, c'est pas what they want to want. Et en fait, je pense que toi aussi, Cécile, t'adorerais être au yoga à 7h30 à l'Ashtanga du lundi.
Ah, moi, j'y suis, mais chez moi. Donc,
oui, voilà. Mais bon,
c'est plus chez moi, du coup. C'est plus online. Voilà. Mais si j'avais.
Elle m'avait bien prévenu et je ne l'ai pas écouté.
De quoi?
Elle m'avait bien prévenu, je ne l'ai pas écouté. Et j'ai fait comme m'avait répondu mon petit sondage, des cours à 7h30 tous les jours, et puis finalement on n'en a gardé qu'un seul. Et là aujourd'hui, maintenant, on en a remis 2 zones, donc on est à 3 et on va voir.
Et du coup, justement, tu parlais de sondage, tu fais des enquêtes clients tous les ans auprès de tes élèves qui viennent au studio?
De satisfaction ou de ce qu'ils voudraient?
Un petit peu, ouais, justement, pour sonder à la fois la satisfaction et en même temps, j'imagine, un peu les attentes.
Ouais. Alors, on en fait, mais les gens répondent pas trop sur la satisfaction. Et puis maintenant, mes élèves, je les connais tellement qu'en fait, elles me disent « Perrine, tu fais chier d'avoir enlevé ce cours-là le samedi. Enfin, » Tu vois, pour le dire en gros, comme ça. Et sur ce que les gens voudraient, oui, je fais des sondages, mais encore une fois… Ben, ça se vérifie pas toujours.
Ouais. Oui, donc toujours se ramener à entre ce que les gens disent qu'ils veulent et ce qu'ils font vraiment.
Voilà. Ouais.
Et pour la rentrée, tu fais des offres spéciales, t'as des promos spécifiques, des cours d'essai, t'as une période donnée. Comment tu
gères
ça? Alors
nous, on fait une offre d'essai pendant 15 jours.
Ouais.
On trouve que 15 jours c'est bien parce que, et d'ailleurs ça marche très bien parce qu'en fait les gens se disent ah bah c'est bien, pendant 15 jours je peux vraiment aller voir si ce prof là me plaît, en fait ça leur permet de voir en 15 jours s'ils vont vraiment pouvoir se mettre sur une routine ou pas. Parce qu'après on a plusieurs formes d'abonnement et ils voient un peu ce qu'ils ont été capables de faire en 15 jours et ce qu'ils seront pas capables de faire. Et comme ça, moi, je préfère leur vendre un truc complètement adapté à leur routine et ce qu'ils feront pour qu'ils restent vraiment longtemps plutôt que de leur dire, prends le pack maximal direct, c'est la rentrée. Et puis, dans 2 mois, ils s'essoufflent et je le vois plus, c'est pas la peine, en fait. Donc, on a cette offre d'essai qui fonctionne assez bien. Et puis après, on fait des promos, mais sur les abonnements annuels, du coup. Les paiements en une fois. Voilà, sur les engagements, du coup, les personnes qui vont s'engager à l'année et payer en début d'année, là, je fais une promo. Jadis, je faisais des promos sur mes abonnements. J'ai fait beaucoup de promos. Et en fait, ça m'a coûté à terme. Quand je me disais, en fait, finalement, la personne paye 11 euros le cours alors que j'ai que 12 places. Enfin, tu vois, j'étais là.
Ça va pas.
Non, ça va pas. Donc, en fait, finalement, je préfère faire une belle offre d'essai qui finalement passe dans un budget entre guillemets marketing, C'est pas rentable, hein, parce que moi, illimité pour 49 euros pendant 15 jours, t'imagines bien que j'ai des gens qui viennent me faire 2 cours par jour pendant 15 jours. Hein.
Oui.
Voilà, donc c'est pas grave. Donc, tu te dis, bah, ça, c'est du marketing, point, c'est mon budget marketing, c'est comme ça. Et ensuite, la personne, elle a fait ses 15 jours, elle dit, OK, vous êtes pour moi, vous n'êtes pas pour moi. Et en fonction, j'ai l'offre qui lui correspond. Elle aura jamais l'impression de payer trop cher pour quelque chose qui lui plaît dans un petit studio où il y a des ajustements, on connaît le prénom, enfin, voilà. Donc, les promos, j'en fais sur les paiements à l'année, ce que ça me semble faire. Mais je ne fais plus de promos sur mes abonnements. Et quand je fais des promos un petit peu sur les cartes, je préfère rajouter des cours que de faire une réduction. Mais ça, je l'ai appris avec le temps aussi.
Oui, exactement.
6, 2, 20, 5.
Sûr. Jamais, éviter de donner du prix, mais plutôt rajouter. Alors, moi, j'encourage aussi, par exemple, sur les offres, plutôt à rajouter des bonus ou des choses qui vont être utiles en plus, en complément, permettre d'aller plus loin. C'est exactement, hein, on peut mettre le pendant du online plutôt que de toujours sacrifier son prix, en fait. J'avais quelque chose qui m'est venu. Donc, ton offre de rentrée, c'est de l'illimité. En fait, c'est pas des cours gratuits. C'est ça, c'est super intéressant parce qu'effectivement, c'est pas forcément ce qu'on voit partout. Donc, toi, c'est un forfait de 15 jours, enfin un prix pour 15 jours et pour tester tout ce qu'on veut, comme on veut, quoi.
Tout à fait. Et surtout, quand on le présente, les gens sont là, ah bah ouais, parce que je leur dis, bah tu vois, il suffit que tu fasses un cours d'essai, que ce soit pas la bonne heure, que ce soit pas le bon prof, c'est dommage parce que t'as une mauvaise image du studio.
Ouais. Alors, effectivement, tu te dis que t'aimes pas le yoga, alors qu'en fait, c'est juste que t'as pas fait un cours qui te convient.
Voilà. Et en fait, c'est vrai que, nous, on a du Kundalini, de l'Ashtanga. Enfin, tu vois, on a tous les cours. En fait, il suffit que tu tombes sur un cours d'Ashtanga, que ça n'a pas été, ou du Kundalini.
C'est sûr que la première fois, ça peut déstabiliser.
Et, voilà. Et cela dit, sous les conseils d'un ami très proche qui a 3 studios à Québec, il m'avait dit, cet été, fais le cours d'essai gratuit. Et je l'ai fait. Et moi, je déteste ça parce que je trouve que ça dévalorise la profession, etc. Enfin, voilà. Et en fait, finalement, comme l'été, le studio n'est pas plein. Il fonctionne encore, il fonctionne même très bien l'été. Finalement, ça a permis de faire découvrir l'endroit, la boutique, les formations, les ateliers. Donc, moi, je fais faire les cours d'essai gratuits dans les périodes plutôt creuses.
OK, c'est très intéressant.
Pour faire venir du monde. Alors après, il y a des gens qui effectivement vont venir parce que c'est gratuit, voilà.
Bon. Oui, il y a toujours des touristes. Hein.
Voilà. Et après là, on se disait avec Alex, est-ce qu'on met ce cours d'essai à 5 euros, juste histoire de dire que voilà, j'ai participé en quelque sorte et 5 euros, c'est pas 25 le cours à l'unité non plus.
Tout à fait.
Voilà. Donc je tâtonne encore, mais je trouve que l'offre d'essai est plus intelligente. Qu'une pure gratuité, il suffit que ce soit pas le bon moment, pas le bon jour, pas le bon prof, mince quoi.
Ouais. Et j'ai envie de dire finalement la personne qui te dit non moi ça me va pas, je veux un cours d'essai gratuit, c'est le client non idéal quoi en fait. Hein, donc c'est l'anti-client idéal pour toi donc l'un dans l'autre.
Ouais, surtout vraiment moi je n'ai jamais reçu un accueil négatif à mon offre d'essai quoi. Quand ils passent la porte et qu'on leur dit non on fait pas de cours d'essai, on fait 15 jours d'essai.
Ouais.
Et qu'en fait, ça coûte le coup de cours. Ils font, en fait, c'est vachement plus logique que je viens d'essayer, voir vraiment si j'aime bien. En fait, quand c'est bien amené, quand toi, t'en es persuadé, finalement, ça passe tout seul. Hein.
Il y a une prolongation en ligne des cours. Enfin, pour les personnes qui pratiquent au studio, elles ont la possibilité aussi d'avoir accès à une plateforme en ligne.
Tout à fait.
Enfin, je le sais un peu, mais...
Donc, soit je retranscris, en fait, les cours en direct.
Ouais.
Et là, on a pas mal de monde parce qu'effectivement, on a des élèves qui sont hôtesses de l'air, qui sont commerciales. Voilà. Donc, elles préfèrent le faire en ligne que pas le faire du tout. Mm. Et on a aussi mis en place une plateforme vidéo parce qu'en fait, nous, tous nos abonnements fonctionnent à points. Mm. Et ça permet à la personne de faire ce qu'elle veut, en fait, tous les mois. Donc, si elle sait qu'elle va pas trop être là, elle peut faire ses cours en ligne pour 1 point, un cours au studio pour 2 points, les ateliers, c'est 3 points. Enfin, et du coup, elles savent que les points, elles vont les utiliser. Donc, ça va.
Mm-mm. Ok, et ça, quand tu présentes les offres et que effectivement il y a cette option, enfin c'est pas une option, mais il y a ce truc de ok, il y a le studio en présentiel, mais il y a du online aussi. Tu sens aujourd'hui qu'effectivement ça fait partie un peu, enfin genre il faut avoir entre guillemets du online à proposer aussi quoi. Ça crée les déclics
Est-ce que ça crée le déclic
pour les personnes qui viennent en studio de se dire ah bah en plus il y a ça, c'est parfait. Enfin, est-ce que ça permet de valider peut-être l'inscription ou de convertir plus facilement?
De convertir plus facilement.
Soutenir sur la durée.
C'est pas, mais en tout cas, elles sont très contentes qu'on le fasse.
Ouais. Peut-être de fidéliser. Peut-être que du
voilà,
coup, au moins le temps de venir, etc. Elles disent, ah, je peux quand même pratiquer, donc t'es toujours un peu là,
exactement.
Donc finalement.
Et tu vois, les personnes, peut-être qu'au lieu de résilier.
Ouais.
Parce qu'elles vont pas être là pendant 2 mois, elles disent, bah, en fait,
elles font les cours en ligne.
Exactement.
Ouais. Ouais.
Donc, ça permet, moi, ce que je voulais, en fait, quand j'ai monté ce studio, c'était de faire quelque chose, en fait, pour moi.
Oui. C'est toi, cool. Dans ton ancien job.
Exactement. Et comme je savais que j'attirerais plus ou moins ces personnes-là, moi, il me fallait une flexibilité maximale, en fait.
Ouais.
Et si moi, tu m'enfermais dans ton cours, c'est le mardi à 19h30, tu pouvais être sûre que je m'inscrivais pas. Ça pouvait pas tenir pour moi. Ça pouvait pas marcher.
Ouais, donc, j'ai connu ça aussi, effectivement.
Voilà. Donc, en fait, moi, ce qu'il me fallait, c'était une flexibilité maximale. Si en plus, à l'époque, j'avais le studio qui, avec mes points ou mes crédits ou mon abo, ou peu importe ce que j'avais, me permettait de faire un cours en ligne parce que j'allais être en déplacement, j'aurais dit, mais attends, trop cool, quoi.
Ouais, génial.
Nous, voilà, il n'y a pas d'engagement.
C'est vrai qu'on n'avait pas trop ça, nous, à l'époque, quand on était toutes les deux dans le monde corporate, le yoga en ligne n'était pas encore des plus développés. Peut-être qu'on serait resté dans notre job si on avait eu l'opportunité de faire plus de yoga.
Peut-être. Bah, et puis surtout, moi, je pouvais passer 1 mois sans faire de yoga, hein, même 2 mois, hein, en fonction de mes cours pro et perso, ça fonctionnait pas. Donc moi, le maître mot de tout ça, c'était flexibilité.
Ouais.
Finalement, tu vois, mais moi, il y a plein de gens qui me disent, mais pourquoi tu fais ça? Enfin, vraiment, il y a des gens qui comprennent pas pourquoi je mets pas plus de contraintes aux gens.
Ouais.
Et en fait, je refuse de le faire. Et finalement, c'est pour ça qu'ils restent.
Et c'est pour ça qu'il reste, oui, tout à fait. Je pense
parce qu'il n'y a pas de contrainte, en fait. Et je leur donne même la possibilité de comment dire, de suspendre leur abonnement 1 mois dans l'année. Donc, sachant ça...
Ouais. Et finalement, ils ne le font pas, j'en suis sûre.
Alors, certains le font, ceux qui partent vraiment 1 mois entier pour le faire. Mais pas tout le monde, en fait. Alors là, j'ai dû avoir 4 suspensions pour le mois d'août.
Ouais.
Donc en fait, laisser la liberté aux gens, ça ne veut pas dire qu'ils vont partir. C'est comme dans un couple, comme dans l'amitié, quoi. Plus on se laisse la liberté, finalement.
Ouais, non, mais ça, c'est sûr. Et j'imagine que tu poses un peu des objectifs ou que tu imagines une tendance sur ton mois de septembre pour la rentrée. Alors, ma question, c'est un peu, OK, si ça ne marche pas comme tu le souhaites, est-ce qu'il n'y a que... septembre ou est-ce qu'il y a d'autres mois pour se refaire entre guillemets? Est-ce qu'il y a d'autres opportunités, d'autres entrées dans l'année? En quoi elles sont différentes de septembre? Et puis je pense qu'on terminera sur cette question.
Moi, la rentrée pour moi, elle dure, elle commence je dirais, c'est à peu près du 20 août au 20 octobre.
Mm-hmm.
Donc, si septembre n'a pas été bon, il y a encore octobre.
Mm.
Et en fait, tout ne se joue pas au mois de septembre parce qu'en fait, il y a des personnes qui ont beaucoup d'énergie qui peuvent tout gérer en même temps. Mais il y a des personnes qui sont obligées de faire une chose à la fois. C'est pas à toi que je vais le dire. Hein.
Mm.
Et parfois, là, tu vois, bon, on est toute première semaine de septembre, ça se bouscule. Bah, il y a du monde, mais ça se bouscule pas aux portions non plus. Mais je me dis, en fait, c'est la rentrée des enfants. C'est
ouais, les gens, ils sont concentrés sur.
En fait, les gens, ils vont arriver dans 2 semaines.
Mm.
Et d'ailleurs, même la reprise de la gym de ma fille, c'est le 18 septembre, en fait.
Ouais.
Donc, c'est OK, si tout n'est pas prêt maintenant, c'est pas grave, ça va durer encore jusqu'en octobre. Et même, je dirais même que les gens ont eu les emplois du temps des enfants, tout ça, ils vont commencer à y voir plus clair finalement.
Exactement.
Dans 2-3 semaines, donc c'est pas du tout dramatique. Il y a aussi janvier, qui est quand même un levier important. L'été reste un levier important. Moi, je vois, on est les seuls à être restés ouverts à Lyon, on a eu du monde.
Mm.
Donc en fait, parfois, travailler un peu en décalé, c'est pas grave non plus. Je dirais que rien n'est dramatique et puis il y a toujours une façon de rattraper des événements, des retraites. Faut pas tout miser. C'est important, septembre. Octobre l'est, novembre l'est. En fait, tous les mois sont importants.
Ouais, non, mais je suis assez... Moi, je crois pas en... On me pose aussi souvent la question pour les offres en ligne. Alors, hormis ouvrir les portes d'une offre le 25 du mois et les clôturer le 31 et du coup, avoir que des paiements en fin de mois où là, ça peut bloquer chez certaines personnes. Hormis ça, je trouve qu'il n'y a pas de mauvais mois, il n'y a pas de mauvaise période parce que sinon, à ce jeu-là, c'est aussi l'inverse. En fait, c'est jamais le bon moment. Je pense que effectivement, pour moi, c'est super intéressant de miser sur les saisonnalités, de proposer des choses différentes en fonction des périodes de l'année, mais de jamais penser effectivement que c'est foutu ou que il y a pas de rebond possible. Et je pense que chacune des périodes a son lot, voilà, de choses à prendre et que ça peut très bien fonctionner, tout comme un lancement d'une offre en ligne. Des fois, j'ai le cas, oui, mais pour les mamans, etc., en plein été, bah non, au contraire, peut-être que justement, tu vois. Elle va avoir envie justement de profiter des vacances pour se prendre un quart d'heure, 20 minutes pour elle et elle ne sait pas comment faire. Et toi, tu arrives avec ton offre et bingo, juillet, août, elle va travailler, enfin, elle va pratiquer avec toi et elle continuera après à la rentrée. Donc, en fait, je pense qu'effectivement.
Tu vois, là-dessus, deux choses. Moi, j'ai des abonnements qui se déclenchent en juin et en juillet.
Oui, voilà.
Enfin, clairement. Ils ont fait leurs deux semaines d'essai. Ils disent bah, finalement, ça va. Je continue comme ça. Et moi, j'ai jamais fait autant pour moi-même de formation en ligne qu'en ce mois d'août.
Oui, quand, bah, voilà.
Dès qu'on avait 2 heures de trajet, je mettais mes AirPods, j'écoutais mes formations. Pendant la sieste des enfants, j'écoutais mes formations. Alors qu'en fait, pendant l'année, je n'ai absolument pas le temps de me faire une formation en ligne. C'est pas possible.
Exactement. Et tu dis, y a des personnes qui ont fait leur offre d'essai en juin. Ton offre d'essai, elle est toute l'année, en fait. Elle n'est pas seulement au mois de septembre. Ouais, c'est ça. Ouais, ouais. Donc du coup, oui, c'est une offre qu'on peut faire à tout moment pour découvrir le studio et les cours, quoi. Mais ça, c'est intéressant aussi.
Ouais. Voilà. Donc non, je pense que la rentrée, ce qui est important, c'est vraiment de se baser sur l'existant, sur ce qui fonctionne. Rien de réinventer la roue. Un tout petit peu de nouveauté, mais pas tant que ça. Pas avoir peur de pas suffire. Et puis, par contre, c'est vrai que plus on planifie à l'avance, moi, je suis quelqu'un comme ça, hein. Je peux pas être à l'arrache, je supporterai jamais.
Analyser, donc, planifier.
Voilà. Et en même temps, aller avec le flow et puis prendre en considération sa vie personnelle.
Je pense qu'on va terminer là-dessus parce qu'effectivement, si on veut une entreprise comme toi pour ton studio, gérer une équipe ou être une entrepreneur durable, bah ça passe effectivement par respecter aussi ses non négociables, son écologie personnelle, bien connaître son fonctionnement et ne pas effectivement négliger ça pour durer dans le temps, quoi. Encore une fois, ça repose un peu sur soi, sur nous, donc pour aller loin. Et comme je dis souvent, c'est un marathon, va falloir tenir sur la durée. C'est hyper important, mais je pense que voilà, c'est bien de le répéter tout le temps parce que c'est d'utilité publique et on a tout le temps besoin de l'entendre parce qu'on a tendance naturellement à dévier, à s'oublier, à voilà, donc c'est bien de temps en temps de refaire les petits check-up pour revalider ses non négociables, ses priorités, son fonctionnement, est-ce que je suis toujours alignée, faire l'inventaire de ce qui fonctionne moins bien, réajuster, c'est en permanence, quoi, c'est pas une bonne fois pour toutes, voilà, c'est tout le temps. Parce qu'en plus, nos objectifs ou notre énergie ou voilà peut évoluer, changer soit au fil des années, soit en fonction des saisons, soit voilà, donc c'est toujours se refaire ce petit check-up et ce petit inventaire pour rester
je sais pas si toi tu parles beaucoup de tes échecs ou quoi, mais moi je le dis tout le temps, des conneries on en dit, on en fait. Et ce sera tout le temps. Et je pense qu'une fois qu'on a accepté ça aussi, ça décoince pas mal.
Moi en plus, ça fait vraiment partie. Pour ceux qui connaissent le human design, moi j'ai une ligne 3 en human design. Donc moi, mon moteur pour avancer, c'est de tester, d'essayer, d'expérimenter. L'échec est pour moi en fait juste une expérience. Et donc d'ailleurs à tel point que j'ai parfois du mal à mettre, tu vois, à me dire là ça a échoué ou ça a pas marché, parce que je vois toujours l'opportunité entre guillemets dans peut-être quelque chose qui s'est pas passé comme je voulais ou quoi, mais je m'arrête pas dessus. Donc après c'est vraiment moi un mode de fonctionnement qui est complètement accepté pour moi et qui est vraiment ancré en moi. Mais effectivement, à juste titre, oui, on a besoin d'expérimenter, d'essayer, c'est jamais figé, quoi.
Et puis personnellement, je mettrais presque un peu plus mon focus sur les vacances et les périodes de creux que sur vraiment des rentrées. Pour essayer de lisser le revenu, lisser... Je pense que le focus... On focus tout sur la rentrée, c'est un truc de ouf, mais il y a quand même...
Oui, c'est bien normal, c'est normal, effectivement. Mais justement, je trouve que c'est ça qui était intéressant aussi dans ces épisodes, c'est... OK, il y a la rentrée, mais et le reste de l'année, quoi.
Mais bien sûr, bah, j'ai hâte d'écouter les autres.
Eh bien oui, au moment où on se parle, les autres sont enregistrés et probablement seront déjà hébergés sur YogiBiz Podcast. Donc en tout cas, merci pour tous tes bons conseils. Est-ce qu'on a oublié quelque chose, Perrine? À part, évidemment, j'aimerais que tu nous parles de ton actualité rapidement, mais au-delà de ça, est-ce qu'en termes de conseils, non, voilà, on a fait le tour?
Je crois.
Donc
c'est
ton actualité...
Non, mais
ça ira. Ton actualité à toi de rentrer du coup pour clôturer cet épisode.
Mon actualité, donc c'était de faire repartir une année sur Ginkgo. On a donc deux YTT 200 heures qui commencent là dans 3 semaines. On a un centre d'Ashtanga en novembre, un 40 heures de séquençage et ajustement aussi en novembre. C'est ça, les grosses
actions. En présentiel, les deux, 40 heures, 100 heures.
Ouais, parce qu'il y a quand même beaucoup d'ajustements, donc effectivement.
Pour les 200 heures, je sais, puisque j'interviens, mais pour.
Et pour les autres, c'est tout du présentiel, en effet.
Yes, donc une rentrée effectivement bien chargée. Alors bon, on garde ce sujet pour une autre fois, mais effectivement, il y a aussi comment je fais pour organiser à la fois le studio et à la fois les formations. Mais on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Ouais. Je pense qu'il y a déjà pas mal d'échanges et de conseils. Merci Perrine. Je te souhaite une belle rentrée.
Toi aussi.
Je te dis à bientôt. Merci.
Bye.
Ciao. J'espère que tu as apprécié autant que moi cette discussion avec Perrine. Vraiment, on a un petit peu oublié le micro, le zoom et discuté comme on a l'habitude de le faire. En tout cas, n'hésite pas à nous faire savoir si ce que tu as pensé de cet épisode en story et à nous taguer toutes les deux, donc @JinkgoYogaStudio et @YogiBizCoaching. Évidemment, tu peux aussi laisser un avis et une note 5 étoiles sur Apple Podcasts si cette série d'épisodes autour de la rentrée t'a plu et t'a été utile pour ton quotidien et ton activité de prof de yoga. YogiBiz Podcast, c'est fini pour aujourd'hui et c'est fini définitivement pour cette série spéciale rentrée. On se retrouve donc dans un prochain épisode tout bientôt. D'ici là, porte-toi bien. Bye bye.